Bonjour Samantha Casbonne.
Bonjour, merci de me proposer cette invitation.
C'est toujours un plaisir. Alors, vous êtes députée des Français hors de France, dans la péninsule
Oui.
ibérique et Monaco. Un des dossiers que vous suivez le plus particulièrement, c'est l'enseignement et l'enseignement français à l'étranger. Alors, évidemment, il a été totalement bouleversé par la COVID-19. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous dire où on en est au niveau des établissements? Quel est le climat? Est-ce qu'il y a des risques de refermeture ou non?
Alors là, en matière de risques, évidemment qu'il y a toujours des risques, puisque nous ne connaissons pas l'évolution par définition du virus et que chaque pays étant souverain, il décide pour chaque établissement, en plus, hein, évidemment, des protocoles à faire respecter qui relèvent, eux, de la France à l'intérieur des établissements, mais c'est lui aussi qui décide en fonction du risque de maintenir ouverts des établissements ou non. Et puis après, il peut s'ajouter le principe de précaution dans chaque établissement en fonction des circonstances. Donc, je dirais sur l'évolution, difficile d'avoir une lisibilité, même à court terme. Je crois que chacun s'adapte au mieux en fonction des circonstances. Mais sur les pays de ma circonscription, je sais que c'est à géométrie variable. Certains ont réouvert, ont refermé. D'autres sont toujours ouverts, d'autres n'ont jamais ouvert. Donc voilà, je pourrais vous apporter exemple et contre-exemple en permanence.
Alors, il y a des plans de soutien qui ont été mis en place, notamment au niveau de l'AEFE. Où est-ce que ça en est? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a des explosions des demandes de bourses? Et par ailleurs, vous parliez de votre circonscription. Il y a des différences, effectivement. Si je prends les établissements en gestion directe, comme celui de Madrid, ou des établissements qui ne sont pas en gestion directe, comme, sauf erreur de ma part, celui de Bilbao, les plans de soutien, et notamment des soutiens aux parents, sont différents. Alors, comment ça se passe, tout cela?
Alors, évidemment, c'est très difficile de coordonner un dispositif de soutien puisque chaque établissement fait en fonction également un peu de son statut. Alors, les postes diplomatiques essayent de coordonner au mieux, mais effectivement, en ce qui concerne la gestion des EGD, qui est, elle, centralisée, puisqu'il y en a 71 et que ce sont des déconcentrations de l'AEFE, et qu'ils sont donc tenus, chacun de ces établissements, à adopter des mesures qui sont votées en conseil d'administration au plan national et qu'ensuite, localement, ils les mettent en application en fonction aussi de leur trésorerie et des possibilités qui sont les leurs. Mais il faut savoir que le conseil d'administration de l'AEFE fixe un cadre qui doit être ensuite appliqué dans les EGD. Les conventionnés ont aussi vocation, vous faisiez allusion tout à l'heure à Bilbao, de les mettre en place ces mesures, mais c'est moins une obligation pour eux puisque ils ne sont pas là encore une déconcentration de l'AEFE. Donc ils font en fonction de leurs possibilités. Certains d'ailleurs sont allés plus loin, ont accordé, comme vous le disiez, un certain nombre de remises et ça se décline à l'international et pas qu'au sein de ma circonscription. Donc je dirais que la souplesse leur a été permise en fonction de leurs moyens. Des possibilités et puis aussi des comités de gestion qui prenaient telle ou telle initiative. Alors, je sais qu'à Porto, ça a été aussi le cas, par exemple. Maintenant, le poste essaye aussi de coordonner au mieux pour qu'il n'y ait pas de différence, parce qu'un parent, lorsqu'il choisit un établissement, il ne regarde pas s'il est dans un conventionné, EGD ou partenaire. Lui, ce qu'il regarde, c'est qu'il est dans un établissement homologué français. C'est à peu près tout ce qu'il vient rechercher. Il vient rechercher un statut d'établissement particulier. Donc, en cela, c'est effectivement parfois incompréhensible, puisque c'était aussi une de vos questions sous-jacentes, pour les familles de comprendre pourquoi certains reçoivent une aide et pourquoi d'autres ne reçoivent pas l'aide à cette même hauteur. Je dirais que tout cela n'est pas simple à coordonner, mais que ça tient aussi à l'état des finances de chaque établissement et des directives fixées par l'AEFE.
D'accord. Alors, nous étions en dialogue récemment avec un conseiller consulaire de votre circonscription, Mehdi Ben Lassen, qui me disait qu'au niveau, par exemple, bon, c'est un exemple, mais à voir, du lycée français de Lisbonne, il y avait assez peu de demandes de bourses nouvelles. Est-ce que c'est également l'information que vous avez de manière plus globale et comment est-ce que ça s'explique? Parce qu'on aurait pensé qu'il y aurait plutôt une explosion des bourses.
Alors, il y a deux phénomènes. Enfin, deux, pour moi, puisque je suis aussi, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, à l'international et pas que ma circonscription. Il faut savoir que les demandes d'aide, d'abord, sont compliquées pour certaines familles à demander. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que certaines le prennent comme une obligation parfois de se mettre dans des conditions d'explications financières qui n'est pas toujours simple pour elles, parce que d'abord, il faut démontrer dans un laps de temps très court qu'elles ont été mises en difficulté. Bon, ça, c'est encore pas très compliqué, mais que souvent, c'est assez intrusif pour elles et que parfois, elles s'auto-même censurent en se disant on va un peu me déshabiller et on va regarder un peu partout et que certaines se sentent, il y a eu un sentiment qui est ressorti un petit peu dans une situation où ils sont en détresse et parfois ils le vivent un peu comme, alors le mot est fort mais j'en ai pas d'autres qui me viennent, un peu comme une humiliation de devoir aller pleurer une aide alors que pour eux ils cherchaient, pour certains en tout cas, une aide un peu plus systématique, c'est-à-dire et plus généralisée sans avoir à devoir démontrer qu'ils étaient dans une situation financière. Alors là-dessus c'est difficile de prendre parti parce que on peut largement comprendre, et je pense que tout le monde peut comprendre qu'on ne peut pas distribuer de l'argent sans qu'il y ait une justification en face. Maintenant que des familles se sentent un peu, j'irais, observées de près, surtout lorsque ce sont des interlocuteurs qu'elles connaissent bien, c'est toujours délicat d'avoir expliqué sa situation financière quand on est face à un chef d'établissement ou à une commission, et que par définition, ils sont obligés d'aller observer vos revenus, ce que vous avez, ce que vous n'avez plus. Voilà, c'est des situations humaines compliquées à gérer, donc je pense que c'est une explication. Et la deuxième, c'est que par nature, quand on n'est pas capable parfois d'assumer le troisième trimestre, ça va être difficile pour les familles d'assumer l'année à venir et que par conséquent, ces aides aussi, qui parfois incluaient la réinscription, ils ont préféré pour certains ne parfois même pas les demander parce qu'ils savaient que de toute façon, il n'allait pas rester. Donc, ce n'est peut-être pas le cas du côté de Lisbonne, mais enfin, en tout cas, c'est le cas dans de nombreux autres établissements où certains font le choix de partir, régler leurs dettes, ne pas avoir à donner d'explications pour bénéficier de certains soutiens et s'en vont. Voilà. C'est aussi une autre explication qui justifie le fait qu'il y ait assez peu, finalement, et c'est effectivement assez questionnant, de demande d'aide au plan international.
Une situation assez compliquée alors. Autre sujet évidemment majeur, c'est le baccalauréat. Donc il y a eu mise en place d'un bac par contrôle continu. Alors il y a quand même une caractéristique des lycées français à l'étranger, c'est qu'ils surperforment au niveau du baccalauréat. Il y a quasi partout quasiment 100% de réussite et même énormément de mentions. Mais ils sont assez stricts au niveau du contrôle continu. Alors, il n'y a pas une rupture d'égalité un peu à ce niveau-là ?
Alors, là-dessus, c'est... Alors, vous savez, dans tout contrôle continu, ça existe aussi en France, le contrôle continu pour certains baccalauréats. Il y a des commissions d'harmonisation et il y a ensuite des calculs qui permettent de vérifier les écarts pour effectivement essayer de... peut-être revoir à la hausse certaines notations qui auraient été lésées pour les élèves parce qu'on sait que l'établissement, d'une manière générale, eh bien, note sévèrement. Et puis, pour ceux qui sont un peu plus, je dirais, enclins à mettre des notes élevées, eh bien, il y a aussi un réajustement par le bas. Donc, c'est tout l'objet ensuite des commissions d'harmonisation qui font leur travail à ce niveau-là. Est-ce que nos élèves sont plus lésés que les autres ? Alors, effectivement, je l'entends à plusieurs reprises de familles qui disent que nos lycées français notent parfois à l'année sévèrement, et des professeurs d'ailleurs l'assument en disant « je préfère noter, comme ça ils ont des bonnes surprises au bac ». Maintenant, j'imagine que tout cela a été revu aussi en fonction du positionnement qui est celui que nous connaissons et du contexte que nous connaissons. Et quoi qu'il arrive, je tiens à rassurer que les commissions d'harmonisation sont là pour réajuster. Voilà. Et les livrets scolaires aussi.
Bon, Très bien. La rentrée 2021, comment ça va se passer? Est-ce qu'on a déjà des informations? Est-ce que ça va être le retour à la normale? Et est-ce que c'est une bonne chose de retourner à la normale? Ou est-ce qu'on n'a pas appris certaines choses aussi à travers cette crise, notamment de l'enseignement à distance, d'utilisation d'outils numériques, d'un certain nombre de choses comme ça? Est-ce qu'il y a déjà au niveau de l'AEFE et au niveau du ministère des directives sur ces points?
Alors, moi, je ne sais pas ce que sera la rentrée, mais pas plus que vous ni que quiconque d'ailleurs, mais je dirais qu'il y a quand même des leçons à tirer de tout ça. Et à la question, est-ce que nous repartirons à la normale, rien ne sera plus jamais d'une certaine manière comme avant, puisque nous allons devoir nous adapter à une nouvelle manière de travailler qui inclura davantage le numérique, nous préparer éventuellement à ce qu'on peut appeler assez maintenant communément une deuxième vague, tout en sachant qu'elle ne prendra jamais la forme d'un confinement tel que nous l'avons tous vécu à travers le monde. Mais malgré tout, quand je dis que nous ne reviendrons pas à la normale, alors on certainement fera revenir dans des conditions similaires les élèves, mais par contre, c'est dans nos pratiques que là, je pense qu'effectivement, plus rien ne sera totalement comme avant, puisque nous allons devoir prendre en compte, je vous dis, un certain nombre désormais d'attentes aussi des familles en matière d'équipement, des établissements, de soutien scolaire, parce que cette année-là a été contrariée, on le sait bien, il va falloir remettre un certain nombre d'élèves à niveau, il va falloir rassurer les familles. Donc, tout ça prendra du temps. Prendra du temps pour regagner cette confiance aussi, hein, parce que les familles ont besoin de savoir que ce qui s'est passé pendant 4 mois ne va pas nuire à la scolarité entière de leurs enfants. Donc, les conditions normales, je dirais qu'elles ne sont pas pour demain, parce que par définition, il va falloir nous adapter à un nouveau contexte qui sera peut-être hybride, qui sera peut-être totalement présentiel, mais avec du rattrapage à faire pour certains élèves et peut-être même pour l'ensemble, parce qu'il y aura certainement, quoi qu'il arrive, des déperditions dans les apprentissages. Donc, c'est un nouveau positionnement que vont devoir avoir les établissements, les personnels et leur direction. Mais par rapport à la rentrée précisément, vous comprendrez bien que c'est très, je ne peux pas répondre, d'autant qu'en plus, à l'échelle de tous les pays, je pense que tout ce que je dirais maintenant pourrait être contredit très vite. Sachez, à titre d'information, d'ailleurs, qu'il y a un pays qui n'a jamais confiné, qui est la Suède, et qui a continué de fonctionner, enfin du moins toutes ces écoles, à l'exception du lycée français, mais pour des raisons internes, eh bien, ont continué d'accueillir normalement les élèves, même en période de Covid, et qui était d'ailleurs assez importante en Suède dans sa propagation. En tout cas.
Oui, ça a beaucoup fait débat et polémique en Suède et à l'international. Une dernière question, Madame la députée. Au début de son quinquennat, le président de la République a annoncé son ambition de doubler le réseau français à l'étranger. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'aujourd'hui, la question, ce n'est pas de le sauver? Ou est-ce qu'il y a toujours des ambitions fortes à ce niveau-là?
Alors, je dirais les deux sont compatibles, puisque le développer se faisait par le biais de leviers. D'abord, les établissements partenaires, ceux qui coûtent aucun euro à l'État, et puis par le biais, je dirais, d'une firme à l'AEFE qui était aussi là pour mettre à disposition un certain nombre de structures de formation pour que justement nous puissions, dans le cadre de ce développement, garantir aux familles qu'il y ait bien une formation des enseignants au sein des établissements partenaires et des établissements qui se développeront, hein, même les établissements EGD conventionnés qui seraient amenés à ouvrir de nouvelles classes, eh bien, l'idée était que l'AEFE puisse coordonner les dispositifs de formation et aussi garantir, grâce à l'inspection générale, et vous savez qu'en France, il va se mettre en place des évaluations des établissements scolaires. Et aujourd'hui, nous avons tout intérêt à ce que le ministère de l'Éducation nationale vienne apporter sa plus-value au réseau scolaire français à l'étranger, puisque les familles sont en demande de certification de qualité. Donc, tout ça, bien évidemment, reste possible, puisque c'était à moyen, je dirais, constant, sans prendre de l'argent sur l'existant. Donc, évidemment que ce projet doit continuer, et les zones qui étaient à développer étaient des zones où il n'y avait pas d'école. Donc, ce n'est pas enlever de l'argent aux uns, c'est continuer à accompagner un développement qui ne coûte pas d'argent à l'État à part les formations et les écoles de formation, mais ça qui vont servir à tout le réseau. Donc moi, je dirais qu'évidemment, cette optique reste toujours bien à l'esprit de chacun. Par contre, effectivement, il va falloir faire très attention, et ça, c'est effectivement un enjeu que nous avons toujours à l'esprit, de maintenir l'existant et de permettre à ce qu'il y ait suffisamment, je dirais, de soutien de l'État, soutien financier. Et d'ailleurs, je serai dans l'hémicycle dès la semaine prochaine, enfin, fin de semaine prochaine et début de l'autre, pour justement défendre cet enseignement français à l'étranger en votant donc une subvention supplémentaire pour les, et surtout donc qui sera accordée au programme 185, qui est celui donc qui permet de financer les établissements français à l'étranger, mais pour qu'aussi, et c'est l'engagement des ministres, et je le soutiens vraiment de toutes mes forces, pour que toutes les familles puissent bénéficier, qu'elles soient dans des établissements partenaires, conventionnés ou EGD, du soutien de l'État, parce que toutes sont dans des établissements homologués français.
Très bien, et nous suivrons ces débats à l'Assemblée nationale très attentivement. Merci beaucoup, Samantha Cazebonne. Je rappelle
Merci
que vous êtes députée des Français hors de France et que votre circonscription couvre la péninsule ibérique et Monaco. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
À bientôt.